Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de revenir pendant que vous êtes dans la série de Jacques. Donc un texte vraiment parlant, très pragmatique, hein, n'est-ce pas, notre ami Jacques, très concret. Il va droit au but. Notre ami Paul, lui, il va mettre plus de rondeur. Mais Jacques, il envoie du lourd et je trouve que c'est vraiment ce qu'on avait pu voir quand j'étais venu sur Jacques 2. C'est vraiment bien complémentaire. C'est pour ça qu'on est content que Dieu nous ait laissé le canon biblique, l'ensemble de la parole de Dieu, qui nous permet d'être équilibrés. Et je me suis dit que c'est peut-être l'occasion, juste puisque on arrive vers la fin de Jacques. Alors je sais que vous avez encore quelques semaines sur lui, mais est-ce qu'il y a des mots ou des phrases ou des choses qui vous ont particulièrement encouragé ou qui sont particulièrement ressortis pendant cette série sur Jacques? Donc je voulais juste vous laisser un petit peu la parole. Est-ce qu'il y en a qui oseraient nous dire un petit peu, voilà, moi depuis le début de la série, ce qui me marque particulièrement, c'est tel aspect ou tel aspect, qu'on puisse justement se rappeler que c'est un tout uni qu'on est en train de regarder. Donc est-ce que quelqu'un veut essayer de se lancer? Oui, vas-y David. Non. Pardon ? Tenir sa langue, ouais, tout à fait. Effectivement, c'est un des textes, sinon le texte biblique qui traite le plus directement ce sujet, en parlant de la langue comme un feu qui enflamme, tout à fait. Merci. Savoir tenir sa langue. D'autres sujets qui vous ont particulièrement interpellé dans cette série ? Ouais. Donc réinsister sur tenir sa langue, effectivement. Et ce qui est intéressant au début, le contexte, c'est il parle de ceux qui veulent être enseignants. Et donc il y a du côté général, mais on voit qu'il veut remettre les gens un petit peu à leur place en disant tu veux enseigner, c'est bien, mais n'oublie pas la langue, ça peut être bien pour édifier, mais malheureusement ça peut aussi faire du mal, ça peut détruire. Donc fais attention si tu veux enseigner. D'autres thèmes qu'on voit? Oui. Lent à la colère. Ça a été associé. Lent à la colère. Effectivement, savoir écouter. Celui qui se met en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. D'autres? Oui. Voilà. Tout à fait. Oui. La foi sans les œuvres. Exactement. Les gens qui disaient « moi j'ai la foi, moi j'ai compris c'est quoi les choses spirituelles », et il dit « ah bon ? Montre-nous ça ». Donc Jacques, notre ami Jacques, tout au long de ces chapitres, en fait, il essaye de remettre les gens à leur place, mais dans le bon sens du terme. Qui tu es réellement ? Attention de t'élever par rapport aux autres et de penser que tu peux les utiliser pour tes propres fins, de penser que tu peux te mettre au-dessus des autres. Il va vraiment parler d'un appel à l'humilité et se positionner non seulement clairement devant les autres, mais aussi devant Dieu. Rappelez-vous qui vous êtes devant Dieu. Il est vraiment en train de remettre les gens à leur place, remettre les gens dans leur situation pour pas qu'on puisse s'élever, pour pas qu'on puisse se dire « moi je veux être grand, je veux enseigner, je veux être riche, je veux faire des choses comme ça ». Il y a vraiment un appel à dire « mais attention, attention, quelle est ta place ?» Qui tu es réellement. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, ça continue dans cet élan et il va interpeller. Alors vous allez voir, ça va être une série, donc c'est un bloc. Certaines Bibles classent la fin du verset du chapitre 4 et le début du chapitre 5 comme un seul bloc, mais vous l'avez découpé parce que justement ça traite deux thématiques complémentaires. Et il va parler justement de ceux qui ont des grands projets. Aujourd'hui, c'est ça la grande question, c'est ceux qui ont des grands projets pour l'avenir. Et je trouve que c'est vraiment parlant parce que qui n'a pas des projets dans notre vie, n'est-ce pas? On essaie tous de se dire, même si vous n'êtes pas visionnaire, il y a des gens, ils ont des visions sur 5 ans, sur 10 ans. Je me rappelle quand on préparait nos concours en école de commerce, ils nous disaient, essayez de prévoir cette question, si on vous la pose, c'est comment vous voyez dans 10 ans? Je ne sais pas s'il y en a qui ont leur a dit de dire ça. Et donc, alors, 10 ans, t'imagines, dans 10 ans, mais moi, j'avais pas du tout idée que je serais pasteur. Donc, on a des projets, on peut se projeter, effectivement, et on essaye tous plus ou moins de se projeter, ne serait-ce que pour le lendemain, ne serait-ce que pour les jours à venir, la semaine à venir. Quand on fait des études, finalement, on essaye de se projeter, hein, n'est-ce pas? On se dit, ben, je prends ce chemin pour à peu près trouver tel travail. Et très souvent, c'est la question que je vais poser à des jeunes quand ils commencent des études. Alors, tu voudrais faire quoi après, quoi? Donc, les projets, c'est normal. C'est normal. Ça fait partie de la vie et on en fait régulièrement. Toutes et tous. Mais là, ce texte, il est important pour nous dire dans quel état d'esprit nous devons déposer, construire, réfléchir nos projets pour l'avenir. Et il commence assez fort, comme il le fait toujours, à vous maintenant qui dites cela. Et on fait partie de ces gens-là, on pourrait se dire. Aujourd'hui, où nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous y ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Tout le monde peut se dire ça. Et puis je pense peut-être certains sont dans le commerce, certains envisagent. On a même des objectifs commerciaux quand on est dans le commerce. On dit, ben voilà, et puis dans cette année, tu devras faire tel objectif. Ce qu'il est en train de viser ici, c'est le manque d'humilité dans la démarche qu'on a. C'est se dire, c'est grâce à moi et grâce à mes propres forces, grâce à mes propres capacités que je peux définir mon avenir. Je peux déterminer ce que je vais devenir. Et là, il veut vraiment ramener l'homme, la femme que nous sommes sur cette terre à notre juste place. Et voilà son grand conseil. Il dit, vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous faites des projets peut-être pour les 6 prochains mois, pour l'année prochaine, etc. Mais même demain, on ne sait pas ce qui arrivera. Demain ne nous appartient même pas. Et il veut vraiment que on puisse être, avant de faire un projet, avant de construire notre avenir, avant de réfléchir au futur, se repositionner sur la réalité dans laquelle nous sommes, c'est que finalement, on n'est pas vraiment maître de notre avenir. C'est vraiment un appel à l'humilité, un appel à la prise de conscience de la fragilité de la vie humaine. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dira. Il dira, en effet, qu'est-ce que votre vie? Et là, Jacques va être Jacques, hein, il va parler comme Jacques. C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit ça? Non? Tu sais ce que c'est ta vie? C'est une vapeur. Et aujourd'hui, elle est là et demain, elle disparaît. Voilà ce que tu es. Oh. Il veut nous repositionner. Mais ça nous rappelle des psaumes, notamment le psaume 103. Si vous prenez avec moi le psaume 103. Et ce n'est pas une pensée nouvelle dans la parole de Dieu. C'est vraiment une pensée qui existe déjà dès l'Ancien Testament. Et je vais juste lire ce verset qui est très proche de ce que notre ami Jacques nous dit. Au verset 15, il est dit, « L'homme, ses jours sont comme l'herbe. » Chez Jacques, on est comparé à une vapeur, et là, on est comparé à l'herbe. Mais la finalité sera la même, vous allez voir. « Il fleurit comme la fleur des champs. » Donc, quelque chose de beau, waouh, c'est magnifique. Mais après, lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qui est l'occupée ne la reconnaît plus. C'est vrai. Nous, à nos yeux, nous sommes importants. Nous avons 10, 20, 30, 50, 40 années devant nous et nous voulons construire. Mais qu'est-ce que notre vie au regard de l'histoire de l'humanité? Certains diront aussi, c'est comme un clin d'œil finalement, ce que nous sommes. Et encore, si je pouvais ouvrir au vu de l'histoire de la création tout entière. Dieu veut nous rappeler notre fragilité. Que nous avons besoin de nous rappeler que devant Dieu, nous sommes fragiles, nous sommes petits. Et nous ne maîtrisons pas forcément les choses qui nous entourent. Et c'est pour ça qu'il va encourager en deuxième partie, plutôt que d'avoir une attitude, donc fanfaron, hein, vantard, j'ai vu tout à l'heure, on a un peu bugué sur le mot, les fanfaronnades, c'est vrai que c'est pas un mot qu'on utilise très souvent aujourd'hui. Mais c'est, en gros, c'est la vantardise, le fait de publier ses faits, de dire ce qu'on va faire, etc. Il dit la position que plutôt on devrait avoir, et ça c'est la deuxième partie, c'est la position de dire, en fait, celui qui est souverain, celui qui sait ce que ma vie sera, de quoi ma vie sera faite demain, celui qui sait si vraiment je vais trouver du travail et je vais pouvoir construire ce que je veux construire, celui qui sait de quoi ma famille sera faite. Et quand on a une famille, on construit. On espère, voilà, avoir des enfants, acheter une maison, voir nos enfants grandir et s'épanouir. C'est des bonnes choses. Mais on veut être absolument conscient que, avant tout, toutes ces choses-là sont entièrement soumises à la souveraineté de Dieu. Entièrement. Et c'est pour ça qu'il dit, au verset 15, dites plutôt si Dieu le veut. Si Dieu le veut, je vivrai. Et c'est vraiment la réalité de notre vie. Je pense que vous le savez. Vous soutenez des gens qui sont dans la maladie. Vous priez pour des personnes qui sont atteintes de situations difficiles. Vous savez que tout dépend de notre Dieu. Je pense que les uns et les autres, nous avons vécu aussi des situations où il y avait des grands projets et d'un coup, il y a quelque chose qui tombe dans notre vie qui fait que tout notre projet se retrouve à terre. Nous, on avait prévu de fêter avec grande pompe les 70 ans de mon père. Et c'est dans cette période-là que ma nièce est morte. Exactement la même période. Ça change tout. Donc, on veut vraiment se dire, Seigneur, si on veut faire quelque chose, on sait avant tout que c'est toi. On sait que on ne maîtrise rien. On peut construire, on peut réfléchir, mais c'est toi qui maîtrises. Il veut qu'on ait cette attitude, il veut qu'on soit, et c'est là encore une fois que notre ami Jacques nous repositionne dans notre vraie position. Mais alors ce qui est encourageant, les amis, c'est qu'en tant que chrétien, le rapport qu'on a à Dieu est un bon rapport. Le rapport qu'on a au Seigneur, c'est un rapport qui n'est pas comme le monde pourrait avoir. En disant, il y a certaines cultures, notamment les cultures des îles, quand on fait des projets, quand on se dit, tiens, à demain, ou on... et ils termineront toujours par si Dieu le veut. Mais même que tu sois croyant ou pas croyant, presque, ça devient presque un réflexe. Si Dieu veut, à demain, si Dieu veut. Et parfois, si Dieu veut, on est sous la fatalité, peut-être. Mais en fait, quand on est chrétien, on a un rapport à Dieu qui est un rapport différent que celui que le monde peut avoir. Et ça, c'est une promesse que j'aime bien dans Jean, elle est assez forte dans Jean, chapitre 1. Qui est Dieu pour les chrétiens? Qui est Dieu pour ceux qui ont cru en Jésus? Et c'est en Jean 1, chapitre 12, que j'aimerais vous lire. Qui est Dieu? Mais à tous ceux qui l'ont accepté, là il va parler de la lumière qui est en Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jean 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, donc à ceux qui ont cru en Jésus, à ceux qui reconnaissent Jésus comme étant la lumière venue éclairer l'humanité, comme étant la lumière de Dieu venue sauver l'humanité, venue transformer l'humanité, et donc venue me transformer, me sauver, me changer. Si je reconnais, si je crois au nom de Jésus, si j'ai déposé mes péchés pardon, sur lui, et que je crois qu'il m'a sauvé des conséquences de mon péché, voilà ce qu'elle dit. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu, puisqu'ils sont nés non du fait de la nature humaine, ni d'une volonté d'homme, ni d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Tout homme et toute femme qui croit en Jésus-Christ est appelé enfant de Dieu. Alors, le rapport à Dieu change, n'est-ce pas ? Oui, ce Dieu est ce Dieu souverain, mais quelle grâce de savoir que c'est aussi mon Père. Oui, ce Dieu est ce Dieu qui contrôle et maîtrise mon avenir, et maîtrise l'avenir de l'humanité, mais quelle assurance, quel réconfort de savoir que ce Dieu est aussi ce Dieu qui veut mon bien. Oui, je ne sais pas ce qui arrivera demain. Oui, je ne suis pas maître de l'avenir de ma famille, de mon couple, de mon salaire, de mon église, de mon travail, mais je sais qui est souverain. Et celui qui est souverain m'accompagne. Et ça, c'est une assurance que Dieu veut que nous puissions avoir. C'est Jésus-Christ qui en parlera énormément, notamment en Matthieu chapitre 6. Je pense que nous connaissons toutes et tous ces paroles, et j'aimerais vous les lire. Matthieu chapitre 6. Et c'est la fin. Je suis dans Marc. La fin du chapitre que j'aimerais vous lire, où Jésus va faire tout un enseignement sur les trésors, les choses que vous verrez aussi la semaine prochaine, sur les trésors que nous voulons amasser. Il terminera en disant juste le verset 27 d'abord. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et après, il terminera, et là, je prends tout de suite au verset 32. En effet, tous ceux-là, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà la position que le chrétien a, les amis, face à l'avenir. Il sait qu'il est fragile, il sait qu'il ne maîtrise pas demain, il sait que rien ne lui appartient à ce niveau-là. Moi, je me rappelle encore très bien aussi, juste pour réappuyer cela, j'avais un ami qui était victime du pouvoir politique de son pays. Et le pouvoir politique, et le président en particulier, le malmenait. Parce qu'il avait une entreprise qui était florissante, et il y avait les jalousies qui s'étaient entraînées, et on le malmenait, on envoyait le fisc régulièrement, on l'avait mis 3 jours en prison, même pour lui faire peur. Et il était vraiment, on savait pas comment il allait s'en sortir, on se dit, mais il est en train de combattre contre le président, qui a quasiment tous les pouvoirs dans ce pays. Comment il va faire pour pouvoir s'en sortir? Et pendant des années, on priait pour lui, on le soutenait, on essayait de voir qui dans le pays pouvait l'aider, etc. Et on se disait, mais franchement, moi je me disais vraiment, mais comment il va faire? Parce que c'est le président lui-même qui lui en veut. Tu es mal barré. Eh bien, en 2 semaines, le président a été renversé. En 2 semaines. Moi qui voyais cet homme quasiment qui avait tous les pouvoirs dans ce pays, en 2 semaines, il a été renversé. Même donc les plus grands et les plus puissants sont renversés. Je me rappelle que juste avant Jacques, je crois que vous avez eu la série sur Daniel, n'est-ce pas? Là aussi, les souverains sont renversés. Même eux, ils ne peuvent pas prédire jusqu'à quand ils resteront. C'est une réalité. Le chrétien le sait, veut garder ça dans son cœur, et ça nous garde aussi humble par rapport à la façon dont on présente nos projets. Ça nous garde humble à la façon dont on va parler de notre avenir. Voilà moi ce que j'ai prévu, etc., etc. Tout est soumis à Dieu. Oui, tu as des bonnes idées, mais tout est soumis à Dieu, sache-le. Mais cette soumission, cette incertitude quand même, hein, il faut le dire, hein, qui peut promettre que dans 5 ans, je vous reverrai ici, n'est-ce pas? On ne peut pas faire des promesses absolues et dire, moi je suis sûr et certain, Ruben, tu reviens dans cette église, je suis là. Donc déjà, est-ce que le bâtiment sera là? On ne sait pas. On espère, mais que je serai là aussi. On ne sait pas. Donc il y a une certaine incertitude sur la vie. Mais j'aimerais utiliser une expression qu'un pasteur nous avait transmise. C'est une incertitude confiante. Une incertitude confiante. Je ne sais pas demain de quoi demain sera fait, mais je fais confiance. C'est pas mal, non? Je pose que ma vie est entre les mains du Seigneur. Je veux lui dire, c'est toi qui fais, c'est toi qui t'occupes, et je sais que si Dieu le veut, j'irai jusqu'au bout. Et j'aimerais reprendre donc ce dernier verset qui est quand même assez interpellant, hein. Je pense que, je sais pas si ça vous a interpellé aussi. Si quelqu'un fait ce qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Waouh. Alors, je pense que c'est une direction de vie, une direction de vie. Le chrétien, sachant qu'il dépend de Dieu, sachant que son Père est au contrôle, et on l'a lu tout à l'heure en Matthieu chapitre 6 verset 33, nous sommes appelés, vous et moi, à vivre pour Dieu, avant tout. Recherchez avant tout, avant même de vous préoccuper si vous allez vous faire de l'argent ou pas là-bas, recherchez avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste, toutes ces choses, vous seront donnés par-dessus. Nous sommes appelés, et je pense que Jacques le fait très bien, il le fait de façon très pragmatique, très pratique, nous sommes appelés à vivre pour Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et à un moment, Jacques nous en parle, il dira, il nous appelle à l'amour du prochain, qui est la règle d'or, la loi royale. Le chrétien est appelé à vivre pour Dieu et à vivre pour son prochain. C'est un appel à cela. C'est que toute notre vie soit dirigée dans cette direction. Et lorsque quelqu'un demandera à Jésus « Qui est mon prochain ?» en Luc, Jésus lui donnera l'image du bon samaritain. Il lui donnera l'histoire du bon samaritain. Et il donnera trois personnages très intéressants qui, je pense, illustrent bien cette notion de « Si quelqu'un sait faire ce qui est bien, ne le fait pas, il commet un péché. » Il dit « Aime ton prochain comme toi-même. » Là est la définition que Jésus veut donner. Premier personnage, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'histoire du bon samaritain, c'est un ? Ah oui, c'est un juif, mais plus précisément. J'ai pas entendu ? Un prêtre. Donc un prêtre, c'est un statut très important. C'est quelqu'un qui apporte les sacrifices à Dieu pour le peuple. Donc quelqu'un très important. Deuxième personnage, vous vous rappelez ou pas ? Un lévite, c'est ceux qui sont au service du temple. Et troisième personnage, un samaritain. Les deux premiers personnages, lorsqu'ils sont passés devant la personne qui était blessée, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont insulté ? Non. Est-ce qu'ils lui ont craché dessus ? Non plus. Est-ce qu'ils l'ont frappé ? Non. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben, ils ont rien fait en fait, c'est ça le problème. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait, c'est ça qu'on leur reproche. C'est pas qu'ils l'ont insulté ou quoi que ce soit, n'est-ce pas ? Ils n'ont pas aimé. Et le troisième, il s'est arrêté, il a soigné. Quelle est la définition que Jésus voulait donner ? Il voulait donner une définition de qu'est-ce que veut dire aimer son prochain comme soi-même. Eh bien là, les amis, c'est nous. Nous sommes appelés à envisager notre avenir pour le royaume de Dieu, sous son autorité. Vous verrez la semaine prochaine aussi la notion de la richesse que nous devons toutes et tous utiliser nos richesses pour la gloire de Dieu. Mais nous sommes appelés à vivre pour Dieu, soumis à son autorité, soumis à ses perspectives, soumis à sa souveraineté. Et j'aimerais vraiment encourager les uns et les autres, quel que soit ce que vous traversez, si vous avez mis votre confiance en Jésus. Et ça, j'espère que c'est le cas de tout le monde, que tout le monde a mis sa confiance dans la personne de Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ, Jésus nous donne cette promesse qu'il prend soin de nous. Quel que soit ce qui nous arrive, quelles que soient les épreuves, parfois même des épreuves incompréhensibles, Dieu reste souverain. Dieu reste souverain. Et donc, il connaît le plan qu'il est en train de faire à travers nous. Son plan, tout au long de notre vie sur terre, c'est de nous perfectionner à l'image de Jésus-Christ, pour que nous ressemblions toujours plus à Jésus-Christ. Et même les épreuves, d'ailleurs parfois, surtout les épreuves, nous permettent d'avancer dans ce chemin lorsque nous nous accrochons à Jésus. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, premièrement, disons-nous que nous ne sommes pas maîtres, mais Dieu en est maître. Et je pense que la seule partie où nous sommes vraiment maîtres, c'est notre réaction. Allons-nous réagir comme ces hommes qui fanfaronnent ? Ou alors allons-nous réagir en humilité et en comptant toujours sur la souveraineté de Dieu ? C'est mon encouragement. Que Dieu vous parle, que Dieu nous parle pour nous dire quel chemin nous devrons prendre. Laissons-le maître de tous nos projets, quels que soient les projets que vous avez faits, soumettez-les à sa volonté. Et surtout, surtout, que nous puissions vivre pour le royaume de Dieu, pour sa gloire, soumis à sa volonté. Amen. Je vais encore prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu es ce Dieu souverain qui veille sur nous. Tu es ce Dieu souverain qui nous fait du bien et qui garde nos pas. Nous n'avons rien à craindre. Tu as toujours été à nos côtés. Et je te prie, si ce matin des personnes n'ont pas encore rencontré ta personne, des personnes peut-être n'ont pas encore confié entièrement leur vie entre tes mains, je te prie qu'ils le fassent cet après-midi. Que si des gens, éternel roi, n'ont pas encore déposé leur fardeau, leur péché, leur vie, et n'ont pas décidé de te suivre comme leur Seigneur, que cet après-midi, ils puissent le faire. Parce que leur vie ne leur appartient pas. Demain ne nous appartient pas. Je te prie pour chaque frère, chaque sœur ici présent qui a des projets. Nous en avons pour la majorité d'entre nous. Aide-nous à les soumettre à ta volonté. Aide-nous à vivre pour toi et à les laisser entre tes mains. Aide-nous à les exposer à ta personne. Mais surtout, aide-nous à garder confiance en toi et à vivre pour ton royaume. Nous avons besoin de nous rappeler, Seigneur, que tu es celui qui est maître de toutes choses et tu nous appelles avant même de construire notre propre avenir, avant même de dire ce que nous allons faire, nous pouvons et nous devons décider de vivre pour toi. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour chaque frère, chaque sœur de l'Église de Saint-Maur. Que chaque frère, chaque sœur de l'Église de Saint-Maur décide de vivre avant tout pour Jésus-Christ et te laisse le soin de construire leur avenir. Merci notre Dieu, parce que tout est entre tes mains. Rien n'est au hasard et nous pouvons vraiment avancer avec confiance. En ton nom Jésus. Amen.